Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez en ligne en DAB+ ou sur radioalliance.fr. Et si on parlait de la Camargue, c'est l'émission sur le régionalisme que vous écoutez. Je suis docteur Jacques Jean, je produis et j'anime cette émission avec un intervenant, un invité permanent, Saint-Gillois, Michel Durand-Roger, président de la Société d'Histoire d'Archéologie et de Sauvegarde, m'a bien dit de dire « et de Sauvegarde de Saint-Gilles », qui, conjointement à la ville et aux bâtiments de France, a réhabilité la demeure du grand prieuré de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem à Saint-Gilles, qui dirigeait à cette époque l'ensemble des nombreux prieurés créés en Europe. C'était donc le lieu de première importance pour l'ordre, et Michel Durand-Roger est aussi le président de l'Académie de Saint-Gilles et de la Camargue. Donc c'est une personnalité qu'il a adoptée. Bonjour à toi, Monsieur le Président. Bonjour à toi, Michel. Bonjour à toi, l'historien, le Camarguais. Merci d'être avec nous pour partager ta passion et l'histoire de ta ville, Saint-Gilles, et bien évidemment de la Camargue.
Bonjour, Jacques.
Pourrais-tu nous parler des origines historiques avant la légende de Saint-Gilles ?
Oui, alors, il y a plusieurs choses sur Saint-Gilles. Il y a, comme tu dis, la légende de Saint-Gilles, mais Saint-Gilles a existé. Ce n'est pas une légende. On en a la preuve.
Là, c'est un scoop, en fait. Saint-Gilles a existé.
Ce n'est pas qu'une légende.
Non, mais c'est une information, quand même.
Oui, mais par contre, on sait une chose. Par exemple, on sait qu'il a été un ermite. On sait qu'il s'est réfugié, on l'a dit, dans le labo, mais on en retrouve.
N'en dis pas trop, quand même. Moi, c'était avant Saint-Gilles, parce que ma prochaine question, c'est qui est Saint-Gilles ? Ah. Donc, avant Saint-Gilles.
Avant Saint-Gilles.
Il faut que j'anime et que je.
Oui, mais Saint-Gilles était d'origine grecque, d'après ce qu'on.
Oui, mais avant lui.
Avant lui. Eh bien, avant lui, il n'y avait pas de Saint-Gilles.
Oui, non, mais d'accord. Mais ce qu'on appelle Saint-Gilles, qu'est-ce que t'es Saint-Gilles avant qu'on l'appelle Saint-Gilles ? Avant que l'ermite vienne.
Il y avait plus ou moins, on le sait par ces sarcophages, une occupation romaine, mais on a fait des recherches et on n'a rien trouvé vraiment de romain à cette époque-là.
Oh,
donc, on peut considérer, si tu veux, que Saint-Gilles a démarré à cause de l'abbaye de Saint-Gilles qui a été créée par Saint-Gilles.
Voilà. Donc, c'est ce que je voulais avant que tu le dises.
Mais c'est pas avant Saint-Gilles, c'était avant Saint-Gilles.
Mais je préviens les auditeurs qu'on prépare l'émission avant, mais que ça se passe pas comme on veut. Mais c'est là l'intérêt, parce que sinon, ça serait trop monotone. Alors, Michel m'a montré une source où Saint-Gilles, dont on va reparler, venait prendre l'eau, parce qu'il faut boire. Hein, donc, l'ermite peut jeûner, mais boire, c'est un peu difficile. Et là, près de cette source, il y a un ancien domus, une ancienne maison romaine, où il y a encore des petites tesselles,
oui. Hein, tu dis, pour les mosaïques. Ce sont des tesselles de mosaïque
qu'on a retrouvées. Donc, il y avait quand même une empreinte, c'est-à-dire que ce n'était pas le désert.
Non. Il y avait certainement une villa romaine, ce que tu dis, et c'est dans cette villa qui était en ruine, c'est dans cette villa que Saint-Gilles est venu se réfugier et devenir ermite à cause de la source.
Alors voilà, maintenant que tu as bien répondu à ma première question, que je suis satisfait, on va passer à la deuxième.
Ah.
Qui était Saint-Gilles ?
Alors, Saint-Gilles, d'après la légende, mais c'est plus qu'une légende, je crois que c'est autre chose, était d'origine grecque. Bon, il est venu dans la région...
L'époque ?
À l'époque des Grecs. Je sais pas.
Mais après le christianisme.
Enfin, non. Ah oui, quand est-ce qu'il est venu ? Oui, excuse-moi, j'ai dit une connerie. Il est venu au moment de Charlemagne ou avant de Charles Martel. En fait, on ne sait pas très bien. C'est là où ça coince.
6e ou 7e siècle. Alors, il faut dire, on en a parlé de notre première émission, que tu as écrit un livre sur l'histoire de Saint-Gilles, mais décoré.
Hein ? Non, c'est un livre sur la légende de Saint-Gilles et les miracles de Saint-Gilles.
Oui, les miracles de Saint-Gilles.
Bon. C'est très amusant tout ça.
C'est
assez folklorique et très agréable à lire et à découvrir. En fait.
D'accord, donc on a une maison romaine et alors, on a un ermite qui vient vivre et rencontrer le Christ dans sa solitude et qui s'appelle Gilles.
Il s'appelle Gilles. En fait, il a commencé par être ermite du côté du Gardon avec un autre ermite qui s'appelait Vérédème. Et il est resté un certain temps avec lui, il y a encore l'endroit où ils étaient. Et puis, je ne sais pas pour quelle raison, il a décidé de partir et de venir s'installer dans la forêt Flavienne.
Alors, en tant que Nîmois, tous les jeunes Nîmois dont j'étais allaient se baigner à la Baume.
Et bien, c'est
Gardon, donc il fallait on descendait à pied parce qu'on pouvait.
C'est ça.
Donc, il fallait avoir chaud pour pouvoir se baigner.
Voilà.
Et donc, on se baignait, puis il y avait l'ermitage de la Baume.
Voilà, tu pouvais remonter jusqu'à l'ermitage.
Oui, non, mais là, j'étais trop fatigué, puis j'étais jeune, donc je remontais pas. Et je me baignais. Et donc, non, mais tout ça, c'est un paysage extraordinaire. Et là, il y avait des ermites qui venaient chercher la solitude dans les gorges du Gardon.
Voilà.
Et donc, l'histoire dit que Saint-Gilles, en fait, est venu là avec notre ermite.
Véridème.
Et donc, évidemment, Véridème. Comme les conflits commencent à deux, hein, on le voit dans les couples, eh bien, il a dit peut-être que j'irai être seul ailleurs. Et d'après la légende, il y a eu une translation vers la Camargue. Donc, il a laissé les rochers pour pouvoir aller près des marais à l'endroit où la ville de Saint-Gilles sera bâtie.
Dans la forêt flavienne.
Voilà.
Et cette forêt flavienne, justement, il n'y avait pas de grotte. C'est pas possible quand on parle de la Baume, ça veut dire grotte.
Oui.
Et en provençal, c'était pas une grotte, c'était une villa qui était en ruine. Voilà.
Oui.
Et cette villa romaine a existé, on en a des traces. Il y a des morceaux de mosaïque que l'on retrouve, enfin, des morceaux de tesselles, comme tu dis. Et malheureusement, ça a été très abîmé par des creusements qui ont été faits au moment de la mise en place du canal du Rhône à 7. Et puis après, ça a été encore plus abîmé par les Saint-Gillois, parce qu'ils prenaient de ces tesselles en considérant que ça préservait de la foudre. Donc, on retrouve dans tout Saint-Gilles les gens qui ont des tesselles, qui viennent de ça, et qui, en fin de compte, les protègent de la foudre. Il n'y a pas beaucoup de foudre à Saint-Gilles, donc ça doit marcher, il faut croire, parce qu'on n'a pas trop mal à ce niveau-là. Mais par contre, ça n'a pas été bon pour la mosaïque en question. Et c'est cette mosaïque qui prouve que Saint-Gilles a dû être effectivement ermite à cet endroit-là.
Donc, de cette maison, il ne reste rien.
Il reste encore, en cherchant bien, quelques tesselles par-ci,
voilà,
par-là.
Et à côté, il y a une source qui est...
Et à côté, il y a une source. Et donc, Saint-Gilles avait besoin de l'eau. Il a trouvé que c'était très bien d'avoir cette source. Et il s'est mis là parce qu'il y avait le gîte. Et c'est pas le couvert, mais il y avait l'eau. Donc,
voilà.
Ça faisait une bonne chance.
Alors, la légende de Saint-Gilles, la biche, etc.
Ou alors là, c'est autre chose. La légende, en fin de compte, c'est le roi des Visigoths qui est venu à Nîmes. Et qui a décidé d'aller faire des chasses dans le coin, et entre autres dans la forêt flavienne.
Oui, c'est important parce qu'on a parlé d'une précédente émission qu'en fait la Camargue n'était pas toujours des marécages, il y avait des forêts.
Exactement.
Donc on chassait, et donc il y avait des cerfs, puisque c'est Gilles, il y avait des biches.
Il y avait des biches, il y avait des cerfs, il y avait des sangliers,
voilà.
Tout ce que tu veux. Et en fin de compte, au cours de ces chasses, soit lui, soit une personne de son entourage a voulu tirer une biche. Et cette biche était apprivoisée, et elle s'est réfugiée auprès de Saint-Gilles, et c'est Saint-Gilles qui a reçu la flèche dans la main. Ce qui est fort désagréable, mais ce n'était pas épouvantable, parce qu'il a pu l'enlever facilement, donc il n'en est pas mort loin de là. Et donc, à ce moment-là, le roi Visigoth est venu, a découvert Saint-Gilles, et a décidé, pour se faire pardonner, de lui dire, nous allons faire une abbaye, et cette abbaye, en fin de compte, ce sera le débarrage de l'abbaye de Saint-Gilles. Alors pourquoi il a considéré que cet ermite était très important et pourquoi il a fait ça? Eh bien peut-être parce qu'il savait, ce que dit la légende, que Saint-Gilles était d'origine grecque et princière. Donc ça peut expliquer pourquoi, à partir du moment où il a eu en face quelqu'un qui était un prince en quelque sorte, il a eu cette déférence qu'il n'aurait peut-être pas eu devant un simple ermite.
D'accord. Alors, il faut rappeler que les armoiries de la ville de Saint-Gilles, c'est sur un fond bleu. Il y a une biche avec une flèche.
Oui. Mais alors, là, c'est la biche qui a reçu la flèche,
voilà,
sur les armoiries. D'après la légende, c'est Saint-Gilles qui a reçu la flèche.
Voilà. Et alors, c'est bleu et jaune, un peu comme la couleur du drapeau ukrainien. Et donc, c'est le blason de Saint-Gilles.
Et je crois que c'était la mer et le soleil.
Voilà. Alors... Donc le roi Visigoth lui donne sûrement des terres, il y a des gens qui viennent autour de lui, il cesse d'être ermite pour devenir...
Il a suivi ce que lui demandait le roi, c'est qu'il a créé l'abbaye. Et il s'est occupé de l'abbaye pendant toute sa vie, et puis un jour il est décédé.
L'abbaye, c'est une abbaye bénédictine.
À l'époque, c'était une abbaye.
C'était avant Saint-Benoît.
Et donc, à ce moment-là, après, il a fini par mourir de sa belle mort. Et les gens disent, c'est la légende, qu'il a été pris par des anges et amené au ciel, ce qui est quand même assez sympathique.
Enfin, oui, c'est une ascension intéressante.
Intéressante, voilà.
Alors, mais malgré qu'il soit monté aux cieux avec les anges...
Il est devenu saint.
Mais ce qui était important, c'est que quand on va dans la crypte de l'abbatiale, il y a son tombeau. Donc quand même, il laissait quelque chose. Puisque c'est un tombeau, un sarcophage qui est quand même important. Et donc il y avait le corps du saint, comme on faisait. Hein, donc, alors ça, c'est une grande modification dans l'histoire des ensevelissements. Hein. Donc ce qui est peut-être intéressant, c'est de dire relique, que ça veut dire. Ben relique, il faut le dire quand même. Avec Saint-Gilles, c'est important parce qu'il va y avoir le corps dans l'abbatiale, dans le tombeau, qui va être pris, comme on l'a dit précédemment dans une autre émission, qui va être transporté à Toulouse pendant les guerres de religion, mais dont une partie est revenue depuis peu. Et tu es un père fondateur de cette translation. C'était en 2000 combien ?
En 2000, il y a 8 ans.
Voilà, donc il y a de nouveau des reliques de Saint-Gilles à Saint-Gilles.
Alors, elles sont revenues. Oui.
Voilà. Il y avait deux modes d'ensevelissement dans l'Antiquité romaine et grecque, parce que c'est pareil. Il y avait ou un ensevelissement en terre classique, etc., ou la crémation. Alors, le moment de la crémation, il y avait un bûcher, évidemment. Au niveau technique, quand on fait brûler un corps, on ne le fait pas brûler en cendres. Ça, on dit les cendres, mais ce n'est pas les cendres. Alors, c'est des os, de la chair desséchée, brûlée, imaginez, où c'est un steak pendant... donc, c'est cramoisi. Donc, une fois que le bûcher était vraiment fini, il ne reste pas grand-chose. La famille récupérait ce qui restait, reliques, les restes, les reliques. Donc on récupérait ça, mais à l'époque, ce n'était pas la cendre. Actuellement, on broie tout ça, on ne va pas faire un cours là-dessus. Mais donc ces reliques, on les mettait dans des urnes, bien souvent en verre pour qu'on voit, qu'on appelait des reliquaires. Et ça, on les mettait dans une tombe à l'extérieur de la ville. Les chrétiens n'utilisent pas l'incinération pour la bonne et simple raison que le Christ est mis dans un tombeau. Donc, ils sont mis dans un tombeau. Donc, pour symboliser le tombeau, on fait des sarcophages. Hein, qui est un mode d'ensevelissement chrétien, puisque les tombes romaines n'étaient pas forcément, quand ils n'étaient pas chrétiens, des sarcophages. Bon. Et surtout, c'est que les Romains, à l'intérieur de l'enceinte sacrée, la mort ne devait pas être présente, donc les cadavres étaient mis à l'extérieur, et les tombeaux étaient sur les routes, pour la bonne simple raison que les noms étaient marqués et le nom restait éternel. Mais avec la christianisation, l'ensevelissement, les chrétiens veulent se mettre près des saints, parce qu'en étant près des saints, eh bien, on passe plus rapidement au paradis. Alors, on le voit très bien aux Aliscans, à Arles, où il y a là, vraiment, il faut aller se promener pour voir Saint-Trophime, etc. Et donc, et Saint-Gilles, c'est pareil, dire que le corps de Saint-Gilles est dans un tombeau, dans un sarcophage, on construit l'abbatiale par-dessus dans la crypte, et l'église est sur le saint. Et les gens se commandent. C'est là où les cimetières prennent naissance, s'enterrent autour.
Alors, en ce qui concerne Saint-Gilles, d'abord, il y a eu autour du saint, dans l'église basse, on a retrouvé des sarcophages. Donc, il y a des gens qui se sont mis autour du saint, carrément dans l'église basse.
Voilà.
Et après, il y a eu autour de l'abbaye proprement dit, il y a eu effectivement des restes qu'on a enterrés jusqu'au XVIIIe siècle.
Voilà, donc ce qui est important, c'est que le corps du saint est dans la crypte, l'abbatiale, l'église est au-dessus, et les cérémonies, la liturgie, est en rapport avec le saint, donc c'est important. Vous écoutez bien l'émission « Si on parlait de la Camargue » sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM et en DAB+ avec Michel Durand-Roger, président de l'Académie de Saint-Gilles de la Camargue, et Jacques Jaume.
Yo te canto con el corazón, porque yo te quiero, stand by me. Como un loco, como un niño, soy delante de ti, porque duele mi vida, stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, que te ama, porque yo te quiero, stand by me. Como un loco, como un niño, soy delante de ti, porque duele mi vida, stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand, stand by me. Stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand, stand by me.
Vous écoutez, ici on parlait de la Camargue avec Michel Durand-Roger, président de l'Académie de Saint-Gilles de la Camargue. Une émission produite et animée par Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. Il faut à présent que nous abordions l'engouement qu'il y a eu autour de la tombe de Saint-Gilles. On a expliqué la tombe, c'est surtout moi qui ai parlé. Enfin, il y a la tombe, mais alors tout d'un coup, un pèlerinage très important à Saint-Gilles. Est-ce que tu peux nous en parler, Michel?
Oui, en fait, ce pèlerinage a commencé très tôt. Exactement quand, c'est difficile à savoir, mais on sait que cette tombe existait déjà, non seulement dans l'abbatiale actuelle, mais certainement dans des églises qui étaient, c'était Saint-Pierre, et en fait deux églises qui existaient, qui étaient à cet emplacement, et on pense que la partie église basse centrale actuelle est un reste de ces églises qui étaient d'avant. Donc la tombe y est depuis très très longtemps. Ouais. Alors la raison pour laquelle il a été connu, ce saint, il y a eu plusieurs. Premièrement, parce qu'il était très bien placé, étant donné que c'était un grand port et que ça amenait les pèlerins vers les lieux saints. Donc, toute l'Europe pouvait passer par Saint-Gilles pour partir vers les lieux saints. Donc, effectivement, il avait affaire à Saint-Gilles. Et puis, il avait une particularité, ce saint, qui est assez extraordinaire. C'est que quand on lui demandait quelque chose, eh ben, il donnait le résultat immédiatement. Ce qui est assez rare chez ça, mais c'est comme ça. Alors, je ne sais pas, personne ne l'a.
Il y a des gens que je côtoie, comme ça, je leur demande immédiatement.
Donc je ne sais pas c'est pourquoi on a dit ça, mais effectivement, dans les miracles qu'on a relatés du Moyen-Âge, eh ben, effectivement, le saint, il vient, quand il y a un prisonnier, il arrive, il se met dans sa cellule, il commence à enlever les menottes ou les fers, et puis après, il laisse sortir. Quand il est pendu, il s'arrange pour qu'il soit dépendu tout de suite. Il est comme ça, Saint-Gilles. Donc, ben, il n'est jamais bien, ça.
Il est actif, voilà.
Il était très, très actif. Alors, après, c'est là où on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Il y a Charlemagne qui a voulu confesser un péché inavouable. Bon.
Et Charlemagne a fait un péché, on l'apprend ça aussi.
Oui.
C'est un scoop. Charlemagne n'a pas fait qu'inventer l'école.
Il a fait un péché.
Il a fait un péché.
Inavouable.
Dans Vénière.
Alors, inavouable. Si, on ne sait plus où. Enfin, on croit le savoir.
Dis-nous.
Je vais le dire. Alors, donc, il a fait un péché inavouable et il a voulu se le confesser à Saint-Gilles. Alors, ça prouve quand même que Saint-Gilles était quand même, à l'époque, très reconnu.
Parce que pourquoi il était renommé,
il était déjà renommé.
En Allemagne.
Voilà. Okay. Alors, le péché en question, il semblerait qu'il aurait fait un inceste avec sa sœur. Bon, l'histoire, ce serait ça.
Cela ne nous regarde pas.
Cela ne nous regarde pas, nous n'étions pas là pour le savoir. Mais enfin, quoi qu'il en soit, et le fruit de cet inceste, ça aurait été Roland, qui est mort à Roncevaux. Donc, voilà ce qui se passe à ce moment-là. Et Charlemagne, pour pouvoir être sacré empereur, devait se confesser. Et ce péché l'embêtait beaucoup. C'est pour ça.
On le comprend quand même.
Il a demandé à Saint-Gilles. Et alors, chose extraordinaire, c'est qu'il n'a même pas avoué à Saint-Gilles, il n'y arrivait pas. Il a fallu que ce soit un ange qui vienne du ciel, avec un papier dans les mains. Et il a apporté sur l'autel à Saint-Gilles le péché. Alors, et alors,
j'adore les légendes, parce que ça facilite la vie d'une manière extraordinaire.
Ce parchemin, je me dis, c'est quand même un parchemin, est resté au puits jusqu'à la Révolution.
Au puits.
Dans la ville du puits.
Au puits envelé.
Oui, au puits envelé. Et malheureusement, à la Révolution, eh ben, il a été détruit, il a été brûlé. Je trouve vraiment dommage.
Ça, c'est peut-être une bonne chose quand même, parce que Charlemagne.
Non, parce que je trouve quand même. Oui, ça serait une bonne chose pour Charlemagne, ça, mais bien qu'on pense.
Toujours le doute.
Mais c'est quand même dommage d'avoir brûlé un autographe venu du ciel, parce que vu le prix des autographes, celui-ci vaudrait très très cher, je pense.
Donc la légende dit que Charlemagne serait venu à Saint-Gilles, alors.
Non. Ça s'est passé au puits.
Au puits. Ah,
C'est Saint-Gilles qui s'est déplacé.
Qui s'est déplacé pour voir Charlemagne, qui n'était pas encore empereur, donc c'est un vain.
Et il semblerait qu'il était obligé de confesser toutes ses fautes. Et il en avait quand même des fautes,
ça aussi, c'est normal.
Pour pouvoir être nommé empereur officiellement.
Donc c'est Saint-Gilles du Gard qui a confessé le futur empereur pour qu'il soit sacré à Rome, je vous le rappelle.
Le grand Saint-Gilles.
À l'an 800, c'est une date facile à retenir en histoire.
Oui,
c'est le sacre de Charlemagne. Donc Saint-Gilles avait une renommée, quand même, cette histoire évidemment qui nous fait sourire, bien que le sujet est quand même très grave, c'est un peu bizarre, c'est un rire un peu particulier, mais enfin bon, puisqu'on a pardonné à l'empereur. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand même Saint-Gilles avait une notoriété européenne et que la ville de Saint-Gilles avait une autorité européenne. C'est pour ça que je maintiens que c'était le cinquième lieu de
la chrétienté. Parce que je pense que la raison de cette notoriété, c'est qu'énormément de pèlerins passaient par Saint-Gilles et donc amenaient la notoriété de Saint-Gilles partout où ils allaient après. Donc ça essaimait énormément au Moyen-Âge. Le nom de Saint-Gilles, parce que Saint-Gilles était un port très important et un important lieu de pèlerinage.
Et oui, un lieu de confession, parce qu'évidemment, tout le monde venait de se confesser.
Ben oui, après ça. Après Charlemagne. Alors là, je fais quand même une parenthèse, parce qu'il faut dire les choses jusqu'au bout. C'est qu'on a dit qu'il avait confessé Charlemagne. Mais en fait, il y a un problème, c'est que s'il a connu Charlemagne, il ne peut pas avoir connu le roi Vambard, parce qu'il y a un problème de
date. Oui, il y a un problème de date.
Donc, à ce moment-là, on dit que peut-être il aurait confessé Charles Martel.
Oui.
Mais Charles Martel...
Là aussi, il y a des problèmes de date. Mais dans les légendes, ce qui était important, c'est que le gradient de date n'a aucune importance.
Exactement.
On revient dans le passé. Ce qui est important, c'est la leçon de vie de la légende. Alors, une question personnelle, en fait, cet engouement que tu as pour l'abbatiale de Saint-Gilles, il faut savoir que tu es quelqu'un de très important à l'abbatiale et que tu fais beaucoup de choses. Eh bien, évoque-nous ce qu'il te plaît dans l'abbatiale. Pourquoi ?
Oui, non, je rectifie une chose. L'abbatiale, c'est quand même pas que moi qui l'ai restaurée.
C'est la mairie
qui l'a fait, avec les monuments historiques.
Oui,
moi, j'adore l'abbatiale.
Oui, mais tu y es.
Et j'essaie dans le promouvoir de la faire... l'approuvoir le plus possible, en fin de compte, ça je le fais. Mais disons que c'est quand même la mairie et les monuments historiques qui l'ont remarquablement restauré et qui n'ont pas fini de le restaurer, puisque l'abbatiale en elle-même, la basilique abbatiale est restaurée, mais il y a tout
le cloître qu'il faut restaurer.
Le cloître qu'il faut restaurer.
Il y a quelque chose qui est exceptionnel dont on parlera une émission, parce que peut-être qu'on se permettra d'avoir des invités techniques ou techniciens. Je pense notamment à Béranger Aubamel pour évoquer le marquis. Et donc avec toi, évidemment. C'est l'escalier en vis de Saint-Gilles, qui est quand même un chef-d'œuvre où tous les maçons, compagnons maçons viennent voir. Donc c'est en fait cette ambiance qui t'a plu et pour laquelle...
Oui, et puis après, il y a une chose qu'il faut reconnaître, c'est que dans le sud de la France, c'est considéré comme le plus beau portail romain qui existe.
Alors ça, c'est le roman provençal, on en parlera.
Oui,
ça.
Mais c'est la raison pour laquelle ça m'a intéressé. Parce qu'il y avait des choses à mettre en avant et qui étaient un peu endormies. Et je trouve que ça se réveille en ce moment.
Le roman provençal et le roman languedocien, il y a des nuances, mais là, on va partir sur autre chose. Donc ce qui m'intéressait, c'était quand même ton avis personnel et puis pourquoi tu aimes cette église qui est magnifique. magnifique et qu'il faut aller voir, descendre dans la crypte. Dans la, je me permets de vous dire, dans l'église basse, mais que... une crypte quand même, et de voir le Christ qui sourit, en fait, ce que j'ai appelé lors d'une conférence, la Sainte Face de Saint-Gilles. On en reparlera. Mais alors, vous savez que j'aime les livres, et que j'aime les livres sur la Camargue, et que les éditions ES, éditions Sutton, a fait beaucoup de livres sur la Camargue. Alors, on a parlé de Frédéric Simien et les deux précédentes éditions, mais là, il y a un livre qui est épuisé, hein, qui est épuisé aussi, mais qu'on peut retrouver, hein, de Bénard Duverger, hein, dans la collection Mémoire en images locaux, donc des éditions Sutton, sur Saint-Gilles. C'est un territoire, alors Saint-Gilles, la quatrième de couverture nous dit, territoire peuplé depuis la préhistoire. Saint-Gilles s'est construit autour de l'abbaye fondée par l'ermite Aegidius et a prospéré durant le Moyen-Âge, devenant un lieu de pèlerinage incontournable. Aujourd'hui, cette ville de tradition agricole s'étale entre les costières où se cultivent vignes et vergers et la Camargue humide. Entre 1900 et 1960, Saint-Gilles et ses commerces ont muté doucement tandis que perduraient les fêtes votives, les amusements des classes de conscrits, les fêtes de la Bouvine dans les rues et les arènes. Les cartes postales et photographies familiales réunies dans cet ouvrage offrent un voyage en images dans le passé de la commune, une escapade nostalgique entre tradition et modernité. Donc si vous voulez avoir des documents, des vieilles photos sur Saint-Gilles, eh bien il faut que vous procuriez ce livre « Saint-Gilles » de Bernard Duverger, qui, je vous le rappelle, est épuisé, mais qui était édité aux éditions Sueton. Eh bien, très cher Michel, merci infiniment pour ta présence dans nos émissions sur la régionalisation qui évoque la remarquable Camargue, sa beauté, lors de nos émissions. Et si on parlait de la Camargue, merci encore infiniment à toi Michel, et à très vite pour une nouvelle émission. Et si on parlait de la Camargue.
Eh bien Jacques, merci beaucoup et à très bientôt donc.
Et comme on dit en Camargue, hasta la vista.